quand ton passé sera fragile, que ton avenir sera papillon, parce que s'envolent et puis s'exilent les souvenirs de tes 16 ans. Quand tu seras seul sur ton île, que tu ne verras à l'horizon que quelques visages en exil dont tu ne te souviens plus le nom. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent tu comprends pas, quand pour moi ce sera plus possible pouvoir te serrer dans mes bras. Je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai je suis là. Si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Quand les jours et le temps qui file auront enfin
le plaisir de vous accompagner, amis auditeurs, à travers votre émission Sawa sur Radio Orion. On parle aujourd'hui de la journée internationale de sensibilisation autour de la maladie de l'Alzheimer. Pardon. Environ 1 million de personnes en France sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et ce nombre devrait augmenter d'après les experts avec le vieillissement de la population, d'où l'importance de trouver des traitements pour lutter contre cette maladie neurodégénérative car on peine toujours à trouver comment parer son évolution. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Judith Mollard, donc de l'association France Alzheimer. Madame Judith Mollard est psychologue, experte à l'association France Alzheimer. Bonjour Madame Mollard.
Oui, bonjour.
Merci bonjour. Infiniment d'avoir accepté notre invitation pour justement sensibiliser le public autour de cette maladie. On en parle depuis ce matin autour de pas mal de témoignages, hein, donc des personnes qui travaillent dans des EHPAD, des personnes qui ont vécu aux côtés de personnes qui sont malades ou atteintes d'Alzheimer. Avant de parler de cette maladie, si vous avez la gentillesse de nous présenter l'association France Alzheimer qui a 30 ans d'existence déjà.
Un peu plus même. Oui, donc une association qui a été créée en 1985 par des familles, des aidants familiaux qui avaient été confrontés à l'épreuve de la maladie d'un de leurs proches et des professionnels de terrain à une époque où le diagnostic était encore moins souvent posé qu'il ne l'est aujourd'hui et à une époque aussi où il y avait très peu de réponses apportées à la personne malade et à ses proches. Donc l'association s'est créée à ce moment-là pour véritablement offrir dans chaque département un espace, un endroit où venir chercher de l'information, où venir prendre contact avec les dispositifs existants, ou venir partager son expérience avec d'autres, etc.
Donc, vraiment, c'est un peu comme des groupes de parole en fait.
Alors ensuite, à l'époque. À l'époque, il y avait donc et puis petit à petit, on a développé un bouquet d'actions de proximité qui se font en règle générale en petits groupes. Et qui se décline en trois axes. Donc des actions pour l'aidant familial seul. Et en premier lieu, on propose une formation des aidants familiaux. Et c'est très important.
Très important.
Quand on accompagne un proche, de pouvoir véritablement bien comprendre la maladie et ses effets sur le comportement, sur les difficultés de la personne malade. C'est vraiment, même si on connaît son proche affectivement, on se sent familier évidemment avec lui, mais c'est très important d'être formé pour adapter hein, son accompagnement et éviter les refus de soins, éviter l'agressivité parfois aussi hein, de la personne malade. Donc on propose d'aller dans les formations des aidants, les groupes de parole, on peut aussi proposer des entretiens individuels hein, avec un psychologue, des ateliers de relaxation. Mais on propose aussi, à la demande des familles, hein, il y a plusieurs années, des actions dites partagées. Parce que c'est une maladie qui fait souvent qu'on s'isole, on n'ose plus faire des choses à l'extérieur. Et donc nous proposons des actions qui accueillent et la personne malade et son proche, et qui permettent de continuer à profiter de la vie, hein, à avoir.
Oui, c'est vrai que parfois les aidants, donc dans les familles de personnes qui ont l'Alzheimer, ont tendance à prendre tout sur eux, et c'est vrai qu'ils oublient voilà. De vivre. Et puis c'est là où votre action intervient, donc pour les aider justement à prendre une pause quelque part.
Oui, c'est ça. Enfin, en effet, d'éviter les situations d'épuisement psychologique, hein, parce que c'est le risque hein, que l'aidant prend s'il s'isole, s'il se replie sur lui-même avec son malade, s'il refuse hein, les aides qu'on pourrait lui proposer. Donc, c'est vraiment accompagner les aidants à accepter progressivement l'aide, à accepter ce qu'on appelle les formules de répit. Hein, c'est-à-dire que la personne malade puisse être accompagnée dans des accueils de jour, dans des séjours courts, enfin et que pendant ce temps-là, hein, les dents puissent. C'est souvent un accompagnement de plusieurs années, hein, c'est pas un accompagnement de quelques mois deux ans, c'est vraiment un accompagnement sur la durée, donc il faut absolument se ménager. Et puis en plus, l'aidant ne peut pas répondre à tous les besoins de son proche malade.
Et donc, le malade, quelque part, il passe par des étapes. Hein, donc, on parle de première étape de l'oubli. Hein, donc, et puis après, on arrive au stade final où la personne vraiment devient dépendante. C'est là où l'épuisement s'ajoute, surtout pour les aidants. Et donc, parfois, on a tendance à chercher de l'aide auprès des EHPAD qui, eux aussi, demandent. C'est pas facile toujours de trouver de la place, n'est-ce pas?
Oui, alors ça dépend hein, de l'offre. C'est vrai que c'est plus facile de trouver une place à Paris ou en Île-de-France que dans des zones rurales. Voilà, l'important aussi, c'est que ces différentes étapes, enfin, il y a des dispositifs aux différentes étapes. Hein, quand on passe de l'annonce diagnostique à l'EHPAD, sans qu'il n'y ait rien eu qui ait été proposé entre, c'est souvent des entrées en EHPAD plus difficiles, plus brutales, plus douloureuses hein, pour la personne et son aidant. Donc c'est vraiment faire en sorte, il y a encore beaucoup à faire, mais pour qu'il y ait vraiment, dès le début, hein, dès l'annonce diagnostique, un parcours de soins qui soit qui soit conçu, qui soit construit avec et le médecin, hein, le médecin traitant, le médecin spécialiste, et avec la personne malade et sa famille.
Alors ça concerne l'émission que vous menez et pas que, hein, puisque nos auditeurs peuvent aller sur votre site pour se renseigner, pour justement faire des dons, proposé pour être bénévole, n'est-ce pas? Parce que c'est une affaire aussi, j'ai envie de dire, tout à l'heure on en parlait, c'est une affaire aussi de société civile aussi, donc ces personnes en difficulté, à un moment donné, ils ont servi la société, leurs enfants, etc. Donc ça serait vraiment dommage de les laisser tomber à leur âge, et surtout dans ces conditions. C'est pour garder quelque part leur dignité, la préserver. C'est difficile, mais il faut le faire. Tout le monde tout le monde peut apporter un peu d'aide. On a parlé même des enfants enfants. Enfin, il y a des personnes qui pensent prendre des enfants pour aller, enfin, comment dire, à côté, au chevet des personnes âgées. Juste, on va mettre les actions de côté pour parler justement, si vous le souhaitez, des diagnostics, les facteurs de risque. Quels sont, comment on peut diagnostiquer qu'on a un Alzheimer ou un début?
Bah alors c'est un diagnostic bon un peu complexe hein. D'abord il faut que la personne fasse une démarche diagnostique hein, aille voir un neurologue en ville ou une consultation mémoire à l'hôpital à un moment donné où ses difficultés de mémoire ne peuvent plus être considérées comme bénignes hein, comme banales. Nous on a tous des problème de mémoire, hein, on oublie des choses, mais souvent ces oublis sont bénins, ne portent pas à conséquence. Hein. Mm-hmm. Par contre, quand la personne commence à oublier vraiment des choses importantes, comme de remplir sa feuille d'impôt hein, au moment où il le faut, ou voilà, c'est à partir du moment
les
où
les tâches quotidiennes qu'on peut faire,
les troubles de la mémoire, les oublis ne sont pas seulement des oublis bénins. Hein. Donc ça doit être inquiétant. Et puis c'est souvent accompagné éventuellement d'un changement d'humeur, hein, une baisse de la motivation, la personne fait moins de choses, se replie un peu sur elle-même, elle peut aussi avoir quelques problèmes à trouver ses mots. Enfin, ça va être tous ces signes-là qui doivent inquiéter et à un moment qui doivent amener à faire une démarche diagnostique. Et ensuite, eh bien, il va y avoir une série de tests hein, neuropsychologiques qui vont être faits, un bilan de l'état de santé de la personne pour éliminer éventuellement une autre cause qui entraînerait des troubles cognitifs, hein, comme la dépression, des problèmes de thyroïde. Enfin, il y a d'autres raisons hein, qui pourraient... Voilà. Et puis quand on trouve, et maintenant on a avec la ponction lombaire, on peut vraiment mesurer hein, les biomarqueurs qui indiquent que la personne est en train d'exprimer hein, une maladie d'Alzheimer.
Et puis voilà, concernant
le diagnostic.
Oui, pardon. Concernant les traitements ou les avancées concernant la recherche de nos jours, on a parlé dernièrement d'un médicament au niveau des États-Unis, mais qui reste toujours non approuvé encore par le ministère de la Santé. Qu'en pensez-vous?
Oui, alors on est heureux hein, de voir qu'enfin une molécule a été mise sur le marché aux États-Unis, même si, et comme vous avez raison de le préciser, il est attendu hein, que cette molécule fasse véritablement la preuve hein, d'une amélioration des signes cliniques. En fait, on se rend compte que cette molécule diminue hein, la quantité de protéines hein, anormales dans le cerveau, enfin une des protéines hein, responsables de la maladie d'Alzheimer, mais il faut encore vérifier ses effets, ses bénéfices cliniques hein, sur les patients. Et on attend au niveau de l'Europe hein, également une réponse des autorités de santé pour la fin de l'année, me semble-t-il. Bon, et puis il y a aussi 29 molécules actuellement en phase 3, c'est-à-dire avec des essais auprès de patients dans le monde. Donc on espère, on a bon espoir malgré tout de voir quand même des choses arriver, même si ça n'empêchera pas la survenue de la maladie, mais au moins... ce sont des molécules qui permettront de ralentir, voire de stopper hein, les mécanismes en jeu.
En tout cas, une dernière chose concernant l'hygiène de vie, est-ce qu'elle participe aussi à la prévention cette maladie?
Oui, c'est-à-dire que, comme pour beaucoup de maladies, hein, il est important d'avoir une bonne hygiène de vie, de bien manger, de ne pas fumer, de ne pas boire, ou en tout cas de façon modérée. Et puis l'activité physique, entre autres, hein, a prouvé que garder des relations sociales et continuer à faire des apprentissages. Hein. On parle aussi de réserve cognitive.
On en parlait, oui.
Hein, plus vous faites d'activités diverses et variées, plus vous activez des réseaux de neurones, et plus si la maladie survient, et plus vous pourrez peut-être hein, résister longtemps à ses conséquences.
En tout cas, la sédentarité n'a pas arrangé trop les choses, hein, donc parfois il faut revenir à l'essentiel, hein. L'essentiel, c'est d'aller vers la nature, se ressourcer et renouer aussi avec le savoir, la réflexion, la pensée aussi. Donc tout cela, on y reviendra. Hélas, il nous faut des heures pour parler de ce sujet très très sensible. En tout cas, merci infiniment de nous avoir donné ce temps pour sensibiliser autour de cette maladie. Et bien sûr, on conseille à nos auditeurs d'aller sur votre site justement pour donc France Alzheimer. Donc on va laisser sur le podcast votre adresse du site, enfin donc le lien du site, pour qu'ils puissent voir tout ce que vous proposez comme action et en même temps faire des dons et pourquoi pas devenir bénévole de l'association. En tout cas, merci beaucoup Judith Mollard. Je rappelle que vous êtes psychologue, vous œuvrez au sein de l'association France Alzheimer. Je vous dis à très bientôt. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.